Ah, c'est vous. Vous êtes enfin arrivé. Je commençais à vous attendre. Bon, il faut faire vite. Tenez, prenez des gants, des bottes et ce long manteau en fourrure. Lilou, Ambre et Anaïs nous attendent déjà pour cette nouvelle expédition sur Radio Campus.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'ULB. Je m'appelle Lilou et je suis accompagnée d'Ambre.
Bonjour.
Et d'Anaïs.
Bonjour.
Pour animer l'émission. Pendant les 40 prochaines minutes, nous allons être ensemble pour parler des coulisses des expéditions polaires à travers l'ASBL IMACA.
Et oui Lilou, IMACA est une ASBL qui organise des expéditions pour faire avancer la recherche scientifique. Elle a aussi pour but d'engager toutes les générations grâce à des ateliers éducatifs et des récits percutants. Mais je ne vous en dis pas trop, on va avoir le temps d'en parler tout au long de cette émission. Pas vrai Anaïs ?
Tout à fait, pendant cette émission nous allons écouter Alexandre Busselin, membre d'IMACA. En studio nous aurons la chance de recevoir Nadine Mattielli, chercheuse à l'ULB. Et pour finir, Maëlle Villani nous livrera son expérience sur ses expéditions dans le Grand Nord. Bien évidemment, tout ça sera accompagné de musique, de jeux et d'autres surprises.
Alors rentrons directement dans le vif du sujet. Ambre a demandé à quelques personnes ce qu'elles emporteraient pour un voyage vers le Grand Froid.
Et vous, si vous deviez partir dans le Grand Froid d'une expédition polaire, qu'est-ce que vous prendriez avec vous ?
Je pense que le plus important, c'est d'avoir un équipement spécifique adapté pour pouvoir résister au grand froid. Ensuite, avoir tout le matériel nécessaire pour les transports, la nourriture et éventuellement même une trousse de survie.
Alors, je prends un appareil photo, une batterie externe et alors aussi des soupules.
Hormis la boussole et de vêtements très très chauds, une paire de skis, je pense, ça pourrait être sympa.
Alors déjà, une énorme quantité d'eau, de quoi se réchauffer et peut-être de quoi communiquer, à savoir téléphone ou autre moyen.
Une couverture chauffante et un kit de secours parce que je ne survivrai pas le froid.
Je pense que je m'équiperai d'une grosse doudoune, probablement aussi une truelle pour faire un igloo, de quoi pêcher dans la banquise, donc probablement un petit bâton et un câble muni d'un hameçon, et un couteau pour manger.
Ah, il ne faut pas être novice pour ce genre d'aventure. Pour vous préparer au maximum, j'ai demandé conseil à un des plus grands adeptes du grand froid que je connaisse, Alexandre Busselin, un pirate de la glace d'IMACA. Vous allez voir. Personne ne s'y connaît mieux que lui.
Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on était justement en collecte d'échantillons dans le sud, dans un fjord avec Kirill et Gilles, et que toutes les minutes, il y avait un énorme morceau de glacier qui tombait. C'est ce qu'on appelle un vélage, donc c'est quand le front glaciaire perd un morceau qui devient un iceberg par la suite. Et donc, on avait des énormes morceaux qui tombaient toutes les minutes. Ça fait un bruit comme un orage, en fait, comme un tonnerre. Et en fait, ça, ce qu'on a devant nos yeux, c'est littéralement la conséquence du réchauffement climatique.
Nous venons d'entendre une anecdote vécue par Alexandre Busselin durant une expédition au Grand Nord. Mais au fond, qui est-il exactement ?
Alors, je m'appelle Alex, j'ai cofondé IMACA avec deux amis qui s'appellent Gilles et Kirill. Aujourd'hui, je m'occupe principalement de l'opérationnel et de la gestion d'équipe. Alors, IMACA, c'est une association qui vient en aide aux chercheurs. Ça part d'un besoin scientifique. Et en fait, c'est des zones où les scientifiques n'ont pas accès. Donc, en fait, nous, on y va pour eux, avec eux. Donc, ils ne viennent pas sur le terrain avec nous. Ça, c'est important de le dire. On ne fait pas du tourisme scientifique non plus. Mais donc, on co-crée les expéditions avec eux. Et par la suite, les données sont délivrées aux universités, aux centres de recherche, aux chercheurs. On ne reste jamais très loin parce qu'on a tous des études, on a tous des backgrounds scientifiques dans l'équipe. Donc, on a le côté où on a envie de comprendre aussi. Et donc, le travail d'analyse, après, c'est vraiment les chercheurs. Et nous, on s'occupe avec IMACA de la préparation et de la collecte de données sur le terrain.
Et derrière ce nom IMACA se cache une signification bien particulière.
Au Groenland, tout change tellement vite. La météo, les conditions, que les Groenlandais, ils ont un mot qui est IMACA, qui en fait veut dire peut-être si la nature le veut. En fait, le sens est juste merveilleux et c'est comme ça que ça devrait être. C'est vraiment la nature décide et on s'adapte derrière.
Alex revient maintenant sur l'une des missions auxquelles il a pris part, une aventure intense entre science et souvenirs marquants.
Et en 2023, on est reparti cette fois-ci les trois associés, donc Kirill, Gilles et moi, pour une mission dans le sud du Groenland où on a fait des échantillonnages pour l'ULB, pour l'UCL, l'Observatoire de Belgique. Et en fait, l'idée, entre autres, c'était de comprendre l'impact de la fonte des glaciers sur la biologie des fjords. Et on a passé 3 semaines, 1 mois dans le sud du Groenland à analyser les fjords, à faire beaucoup de types de mesures et passer des journées entières à côté des glaciers, à entendre les vêlages, la glace qui tombait et surtout faire des échantillons qui ont été exploités et qui ont réussi à rentrer dans des papiers scientifiques assez grands.
Partir dans un froid extrême, ça ne s'improvise pas. Alors comment se prépare-t-il, notamment sur le plan physique ?
Donc ça va se passer à travers énormément d'endurance, énormément de cardio, énormément de préparation physique, de mobilité. Donc ça, c'est assez varié. Ça peut passer à travers des grandes sorties vélo, des grandes sorties en montagne, du crossfit. Donc vraiment, essayer d'être le plus complet possible physiquement.
Mais la préparation ne s'arrête pas là. Il y a aussi d'autres aspects qu'on oublie souvent.
Il y a la partie logistique, qui est la partie qui est gérée aujourd'hui par Céline dans notre équipe. Donc c'est tout ce qui va être certain que les équipes arrivent à temps au bon endroit, que les échantillons sont ramenés aux universités de la bonne des manières, s'assurer que en fait, toute la mission se passe comme sur des roulettes. Donc ça, c'est l'aspect logistique qui est quand même un gros morceau. Il y a l'aspect mental, et Gilles fait beaucoup de conférences et de formations sur ça, de justement se mettre dans des telles conditions. Mentalement, ça peut amener des problématiques, d'autant plus quand on est en équipe. Donc c'est sûr que s'organiser en équipe dans des conditions extrêmes, c'est assez complexe, donc il y a toute cette préparation-là.
Pour gérer tout ça, l'équipe s'appuie sur un guide précis et détaillé.
Alors chez IMACA, on a un manuel opérationnel qui a été rédigé par Céline et Gilles, qui fait plus de 35 pages. En fait, ce qu'on dit souvent, c'est qu'un mois d'expédition, c'est un an de préparation. Et donc notre manuel, en fait, il prépare étape par étape, à peu de choses près, semaine par semaine, un an avant le départ de l'expédition.
Sur le terrain, les imprévus font partie de l'aventure. Il faut alors s'adapter rapidement pour continuer.
Ça, c'est Kirill dans l'équipe qui dit souvent qu'on a beau tout préparer au millimètre près, il y aura toujours un imprévu qui va faire que toute la mission change. C'est un exemple qui peut paraître bête, mais pour la mission en 2024, on avait 3 personnes qui partaient sur le terrain. Donc on avait Gilles qui partait de la Belgique, on avait Jaron et Alex qui partaient du Canada. À l'instant où tout le monde partait de la Belgique, il y a eu la fameuse panne informatique mondiale qui a fait que tout le secteur aérien a été complètement down, et en fait on a les bagages d'Alex qui se sont retrouvés en Allemagne alors que lui était au Canada, on a Gilles qui a été retardé, on a Jaron qui a été bloqué. Donc ça, c'est quelque chose de plus logistique sur le transport, mais en fait ça a retardé tout le reste de la mission. Donc ça veut dire retarder les contacts avec les locaux sur place. On avait aussi eu des imprévus de une météo beaucoup plus compliquée, beaucoup plus de vent, ce qui fait que c'est impossible de faire du carottage, que c'est impossible de faire des échantillons. Il y a toujours cet aspect imprévu, donc on est toujours bon, IMACA, on verra bien ce que la nature décide et nous on s'adaptera.
Une fois sur place, l'équipe se rapproche des habitants et petit à petit, des liens se créent.
On a beaucoup d'amis groenlandais, on a beaucoup de contacts sur place, on travaille le plus possible avec des locaux, parce que c'est aussi le but, et aussi parce que c'est chouette de, quand on va faire de la collecte de données chez eux, d'avant toute chose leur expliquer pourquoi on fait ça, mais donc leur expliquer ce qui se passe. En fait, c'est une merveilleuse arme pour les aider à devenir un peu plus responsables, pour les aider à mieux comprendre, et donc au plus possible, on essaie d'interagir avec eux.
On a demandé à certaines personnes qui n'ont jamais vécu ce genre d'expédition ce qu'elles emmèneraient. Mais vous, qu'est-ce que vous prenez avec vous de vraiment important ?
Des bons vêtements, évidemment beaucoup de matériel de sécurité, parce que se déplacer dans des environnements comme ça, ça reste quand même assez complexe et assez risqué. Donc là, nous, on aime bien dire ça, mais que ce soit l'océan ou que ce soit la calotte glaciaire, elle nous tolère sur son dos, mais on n'est pas chez nous. La nourriture, pas négligeable. Donc c'est souvent de la nourriture qu'on prépare en amont. C'est de la nourriture qu'on met sous vide, en fait. C'est des espèces de grandes barres énergétiques. Donc un mélange de beaucoup de noix, de beaucoup de flocons d'avoine, du chocolat, beaucoup d'huile d'olive, parce que l'huile d'olive, ça tient chaud et c'est un excellent apport calorifique. Et puis tout ça, on le fait sous forme d'une merveilleuse barre qu'on compacte, qu'on met sous vide. Ça peut paraître bizarre, mais c'est pas si mauvais, je vous promets.
Mais alors, lorsque vous êtes là-bas en mission, comment vous faites pour prélever des morceaux de glace et pour les ramener ici sans qu'ils fondent ?
Ça fait partie des grands processus logistiques de ramener de la glace sous l'état de glace. Donc ça, on travaille avec des transporteurs spécialisés, dédiés dans le transport réfrigéré. Donc quelque chose qu'on fait beaucoup, c'est des filtrations directement sur place, justement pour ne pas avoir à transporter cette glace et avoir tous ces casse-têtes. On fait nous-mêmes fondre la glace sur le terrain, on la filtre nous-mêmes avec différents processus qui sont demandés par les chercheurs, et en fait, on ramène juste le filtre.
Mais parfois, ces morceaux de glace prennent tellement de place qu'il faut utiliser le frigo le plus proche.
En 2023, j'avais stocké, j'avais monopolisé à l'époque, gentiment, ma maman m'avait prêté 2 étages de son frigo, que j'avais été déposer des échantillons de glace chez elle. Donc elle était ravie d'avoir des échantillons de glace de la calotte glaciaire du Groenland chez elle. Enfin, j'avais plus de place chez moi. Donc c'est original, quand elle ouvrait son frigo, elle avait des petits souvenirs.
Et ce n'est pas tout. Ils réalisent des films et des documentaires pour partager la science qui leur est chère. Et forcément, tout ce matériel prend de la place.
Bah, les choses auxquelles on ne pense peut-être pas directement, c'est que nous, on amène énormément de caméras, de matériel pour faire de la vidéo, pour produire du contenu, parce que faire de la science, faire des expéditions, ça a du sens uniquement si on le partage par la suite. Et donc, on a tout un petit setup comme ça de caméras bien préparées avec des batteries grand froid, avec toute une optimisation et le côté un peu geek qu'on a pu mettre en place pour réussir à faire fonctionner ces caméras. Mais donc, c'est pas quelque chose qui va nous aider à survivre, mais c'est quelque chose qui va nous aider à véhiculer les messages qu'on veut véhiculer. Donc, on en parle beaucoup, mais le voir de ses propres yeux et de voir une conséquence de nos propres yeux, c'est vraiment ouf. Ok, en fait, ça existe, les choses évoluent, et on comprend un peu mieux, on conscientise un peu mieux, ça donne d'autant plus envie de raconter ça et de montrer ça à travers des films, des documentaires, des conférences.
Pour justement faire passer leur message, ils adaptent leur communication selon le public qu'ils veulent toucher.
Nous, ce qu'on adore, c'est le faire avec des plus jeunes, et parfois même très tôt. Donc Pauline, qui s'occupe aussi du développement pédagogique, elle fait même des ateliers en maternelle. En fait, on se rend compte qu'ils sont hyper conscients de ce qui se passe. C'est juste qu'on leur explique pas toujours le pourquoi, le comment, et surtout le comment est-ce qu'on peut agir et travailler dans ces métiers-là et faire en sorte qu'on a une action positive. Et donc, ça arrive souvent qu'il y ait des jeunes qui viennent à la fin de nos présentations. « Ah oui, moi aussi, je veux faire de la science maintenant. Ah, c'est trop chouette, j'ai compris ça. Je sais ce que c'est un iceberg maintenant. Je pourrais l'expliquer à mes parents. » Et en fait, ils sont hyper éveillés. Ils ont vraiment envie d'avoir des actions et de travailler dans un endroit qui a du sens, de faire des choses vraiment concrètes. Et donc, les retours sont super bons et même quand on fait des conférences plus grand public, ça arrive souvent qu'on ait 3 générations dans la même salle, quoi. On a l'enfant, la maman et la grand-mère qui est là. Et donc, c'est un discours qui est assez multigénérationnel, qui parle à tout le monde, qui touche tout le monde. Et les gens sont demandeurs de ça.
Pour conclure, quel instant incroyable vous a le plus marqué ?
On a une baleine qui est venue pas très loin de notre bateau et qui s'est endormie. Et du coup, en fait, elle était à côté de nous. Et les baleines, quand elles dorment et qu'elles sont à la surface, en fait, elles montent, elles descendent, elles montent, elles descendent en fonction de leur respiration. Et à chaque fois qu'elles montent, elles recrachent de l'air. Et donc, ça fait vraiment ce petit mouvement assez apaisant. Et donc, on était devant ce glacier avec la baleine qui dormait à côté de nous et tout ce front glaciaire qui évoluait. Donc, c'est sûr que c'est assez marquant. Et c'est un endroit dans lequel j'étais déjà venu l'année d'avant. Et à peu de choses près, on ne reconnaissait plus rien. Tellement le front glaciaire avait reculé, avait laissé apparaître un énorme rocher. Donc tout l'endroit changeait. En fait, c'est fou de se dire que les choses changent réellement vite d'une année à l'autre. Et c'est pour ça que les locaux aussi, même, ils voient leur pays changer, entre guillemets, de jour en jour. Donc c'est sûr que c'est assez marquant, ce genre de choses.
C'est vrai qu'il faut être super bien préparé. Après toutes ces explications, je ne sais pas vraiment si moi, je me sentirais capable d'y aller.
Oui, et les barres de céréales à l'huile d'olive pendant un mois, personnellement, c'est bien ce qui me retient de partir au grand froid. En tout cas, pour rester dans l'ambiance, on va écouter la chanson Territory du groupe The Blaze, la chanson qu'Alexandre Buslin écoutait lors de ses longues traversées sur la glace. Le morceau date de 2017 et on vous le passe maintenant.
Shed some tears of love now, like a desert in the rain. When some of the dead are waking up, yeah. There's nobody like my mom. There's no place like my home since I was born. When I was young, the flavor is so strong. I've missed it so long, yeah. Thank you.
retourner à des choses plus sérieuses, nous sommes maintenant en présence de Nadine Mattielli. On va pouvoir en savoir plus sur le côté scientifique derrière ces expéditions dans le Grand Nord.
Oui, tout à fait. Tout d'abord, bonjour Nadine Mattielli.
Bonjour.
Vous êtes professeure en géologie à l'ULB et vous êtes géochimiste. Vous collaborez avec IMACA et vous étudiez les poussières et les traçages de celles-ci dans la neige. En quelques mots, qu'est-ce que ça signifie ?
Eh bien, donc, grâce à IMACA, on récolte effectivement les échantillons de neige. Et grâce à une équipe, en particulier pour l'instant la doctorante Sipil Boxo et la postdoc Sarah Vauti, elle filtre la neige et donc elle récupère en laboratoire les poussières. Et donc après une dissolution, elles peuvent étudier la composition précise de ces poussières, en particulier les concentrations d'éléments en trace. Et donc c'est grâce à ces profils d'éléments en trace que l'on parvient à déterminer leur origine. Et si on parvient à déterminer l'origine des poussières, eh bien on peut reconstruire, retrouver la circulation atmosphérique d'une région donnée, en l'occurrence du Groenland.
Et du coup, d'après vos recherches, d'où viennent ces poussières de la plupart du temps ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le fonctionnement de la circulation atmosphérique dans l'hémisphère nord est totalement différent de l'hémisphère sud. Donc, ce sont deux hémisphères qui fonctionnent, de façon indépendante. Et donc, au Groenland, la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de sources de poussière différentes. Bien souvent, les sources de poussière minérales, donc vraiment les poussières naturelles, proviennent des zones plutôt désertiques. Donc toutes les eaux désertiques dans le nord peuvent contribuer aux poussières qui retombent sur l'Inland Sea du Groenland. Donc elles peuvent provenir par exemple du désert de Gobi, du Sahara, d'Amérique du Nord et potentiellement aussi du Groenland. Donc des roches qui ont déjà été dégagées de la calotte glaciaire.
Très bien. Et plus spécifiquement, les poussières, elles amènent le nécessaire à la croissance des algues, c'est ce que j'ai pu lire pendant mes recherches, qui vont impacter la fonte des glaciers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où proviennent ces algues, pourquoi il y a des algues sur les glaciers et comment elles impactent les glaciers ?
Oui, alors votre question est vraiment très intéressante, mais multiple. Donc effectivement, au Groenland, l'Inland Sea a cette particularité que l'on ne retrouve pas du tout en Antarctique, pour le moment en tout cas, c'est que dans la marge ouest de l'Inland Sea groenlandaise, on trouve ce que l'on appelle la dark zone. Donc c'est une zone d'ablation qui est très sombre et que l'on peut regarder par exemple via Google Earth, on la voit vraiment distinctement. Et donc c'est une zone qui est plus sombre parce que d'une part il y a un dépôt important de poussière sur cette neige, cette glace, mais il y a en plus, selon certaines périodes de l'année, le développement de bloom algaires, donc vraiment d'une quantité importante d'algues qui se développent au sein de la partie superficielle de la glace ou de la neige. Donc ça, c'est particulier. Et donc, s'il y a beaucoup de poussière, beaucoup d'algues, en fait, ça diminue l'albédo de cette calotte glaciaire. C'est-à-dire que ça diminue la capacité de la calotte glaciaire à réfléchir le rayonnement du soleil. Et donc, ça agit de manière à augmenter la fonte de la calotte glaciaire. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important, c'est que malheureusement, cette contribution accrue de poussière et d'algues, eh bien, augmente encore la fonte de cette calotte glaciaire qui ne fait qu'augmenter malheureusement. Donc on peut repérer par exemple un événement que notre collègue du Liège avait mentionné. Donc en 2023, en une journée, au mois de juillet, il y a 22 milliards de tonnes de glace et de neige qui ont fondu. Donc il y a 10 milliards qui ont été redistribués en forme de précipitation et puis 12 directement dans l'océan.
Donc ce sont des événements vraiment très importants et ça prouve que le Groenland fond beaucoup, beaucoup plus vite que prévu et donc contribue beaucoup pour l'élévation du niveau des mers.
Donc de ce que je comprends, vous tournez vraiment aussi vers des thématiques environnementales, surtout avec l'étude de la circulation des particules atmosphériques. Pourquoi c'est important pour vous de se concentrer sur ces thématiques particulières ?
Parce que je trouve que c'est vraiment central. On peut pas passer à côté de ce changement climatique qui affecte en réalité beaucoup plus nous-mêmes, c'est-à-dire la population, c'est-à-dire la civilisation. La Terre, elle retrouvera toujours le moyen de rebondir. Ça, c'est une chose. Mais d'autre part, c'est que nous sommes responsables de ces changements climatiques. Donc quand on étudie l'histoire de la Terre, donc depuis 4 milliards d'années et plus, on voit qu'elle enregistre des changements de température importants, mais ça prend beaucoup de temps. Ce qui est particulier aujourd'hui, c'est que ces changements de température sont extrêmement rapides et extrêmement brutaux. Et donc l'impact sera vraiment très important.
Ok, très bien. Et vous travaillez avec IMACA, donc l'ASBL dont on parle depuis le départ de l'émission. Comment vous êtes rentrée en contact avec l'équipe ?
Ça s'est fait par email, un petit peu par hasard. Je ne sais pas comment j'ai reçu cet email. C'était dans les préparatifs de la première expédition du groupe IMACA, mais qui s'appelait à ce moment-là Nanoc. Donc ils avaient décidé de faire une sorte de triathlon au Groenland et c'était un triathlon à la fois sportif mais aussi scientifique. Donc ils devaient traverser la calotte glaciaire de l'ouest vers l'est, ensuite ils devaient faire du kayak le long de la côte ouest et puis ouvrir une voie en escalade, donc une voie verticale tout au sud. Et donc, ils ont trouvé utile de contacter des scientifiques pour pouvoir bénéficier de cette expédition qui était quand même unique, pour ramener des échantillons. Et donc, mon collègue Steve Vonville et moi, on a trouvé ça vraiment une opportunité à saisir. Et donc, on a directement répondu à l'appel et le contact avec IMACA, du coup, a été tout de suite très, très bon. Donc, non seulement ils sont super motivés, super sympas, mais en plus, ce sont des scientifiques aussi. Donc, quand on leur parle de précautions d'échantillonnage, mais tout de suite, ils voient ce qu'on veut dire et ils prennent toutes les notes nécessaires, toutes les informations nécessaires pour être vraiment très précautionneux sur le terrain et donc nous ramener des échantillons de grande valeur dans des très bonnes conditions.
Et en parlant d'échantillons, c'est quel rapport que vous entretenez avec les personnes d'IMACA une fois qu'ils vous ont ramené les échantillons ? Est-ce qu'il y a un suivi sur le côté scientifique ? Est-ce qu'une fois que vous avez récupéré les échantillons, c'est un travail plus personnel ? Enfin, quel lien vous entretenez après ?
Alors, on a gardé contact hein, et on garde toujours contact avec leur équipe pour plusieurs raisons. D'une part, il y a cet aspect de communication qui est très important chez eux et ils ont raison. Je crois que quand ils organisent une expédition avant et après, c'est important de communiquer de manière à faire un peu rêver aussi les gens, parce que ça évoque évidemment des paysages absolument fabuleux, mais ça sensibilise aussi la population, justement, à propos de ces changements climatiques. Et puis, ça peut éveiller des passions. C'est important aussi, au travers de ces expéditions, de peut-être mettre des étoiles dans les yeux des enfants ou des ados ou des personnes plus âgées, peu importe, pour réveiller des passions. Et puis, une fois que l'expédition est terminée, que les échantillons sont revenus, c'est vrai que les scientifiques mettent plus de temps pour pouvoir préparer les échantillons, réaliser les analyses, puis compiler les données. mais ça ne nous empêche pas de rester en contact et de vouloir absolument communiquer les résultats avec IMACA et de les inclure aussi dans les publications ou dans les communications pas écrites, mais cette fois orales, lors de conférences. Et puis il y a ce travail aussi partagé avec IMACA pour aller dans les écoles et pour pouvoir voilà, présenter ce qu'on fait et à nouveau parler de science avec des plus jeunes.
Merci beaucoup Nadine Mattielli. Maintenant, je vous propose de faire un petit jeu pour détendre l'atmosphère. Le jeu, il est très simple. Je vais vous donner des anecdotes sur les expéditions et vous allez devoir deviner si elles sont vraies ou fausses. Donc c'est tout de suite. Tout d'abord, le capitaine James Cook a été mangé par des cannibales en 1779 à Hawaï lors de sa troisième expédition autour du monde.
Moi, je dirais que c'est faux.
Moi, justement, je dirais que c'est vrai.
Ah oui, pourquoi?
Ben, je sais pas, à cette époque-là et tout, je sais pas, c'est
mangé
possible.
Par des cannibales.
Moi, je dirais que c'est faux.
Ouais.
Mais bon, vous avez raison, c'est tout à fait faux. Les récits divergent sur le traitement donné au corps de l'explorateur. De plus en plus de sources parlent d'interprétation occidentale. Les chercheurs parlent plus de rituels que de cannibalisme motivé par la faim. En 1542, Jacques Cartier quitte le Canada. Il est convaincu d'avoir découvert de l'or et des diamants. En réalité, c'était du fer et du quartz.
Est-ce que c'est vrai? En vrai, il y a moyen que ce soit vrai, non?
Effectivement, ouais, on associe le nom avec
les. Eh bien, c'est vrai. Oui. Ça a même donné lieu à une expression plus faux que les diamants de Cartier.
Allez.
Ok.
Donc, voilà. Magellan est le premier homme à compléter le tour du monde.
Magellan.
Oula. Je sais pas trop.
En tout cas, c'est un grand explorateur.
Ça, oui. Parce que c'est.
Tu crois que c'est faux, Anaïs? Tu penses que c'est faux? Je sais pas, en fait. J'ai un doute.
Est connu pour vraiment le tour du monde? En même temps, si.
Je vais pas vous donner d'indice. C'est vrai ou c'est faux?
Ça part sur un nom pour moi.
Ok, ouais, je te suis. Je pense aussi que c'est faux.
Et moi, je vais dire oui pour vrai.
Pour balancer. Eh bien, c'est faux. C'est bien lui qui a lancé l'expédition en 1519, mais c'est Juan Sebastian Elcano, navigateur de la Victoria, qui faisait quand même partie de l'expédition, qui a terminé le tour du monde. C'est donc lui le premier à le compléter.
Ok.
Lors de l'expédition Franklin en 1845, qui avait entre autres pour but d'explorer l'Arctique, certains membres de l'équipage auraient pratiqué le cannibalisme. On y revient. Hein. Est-ce que c'est vrai ou ça fait partie de la légende autour de l'expédition?
Ça, je crois que c'est vrai pour le coup. Pour survivre, il me semble qu'ils ont fini par un peu...
C'était en quelle année, t'as dit?
En 1845.
Ouais, en vrai, il y a moyen que ce soit vrai.
Il me semble que c'est... Ouais.
C'est vrai qu'il y a eu plusieurs expéditions où, malheureusement, il y a eu ce genre de choses dans des conditions vraiment extrêmes.
Eh bien, vous avez tout à fait raison, puisque selon plusieurs recherches, des traces sur les eaux portent des traces de cannibalisme. Ça a été fait par des chercheurs et validé par des chercheurs. Et pour finir, dernière anecdote, Charles Darwin, célèbre pour ses théories sur l'évolution, mangeait les espèces qu'il étudiait.
Oh, sûr que non.
Alors là, je pense pas. Je dirais faux, personnellement.
Non, franchement. Mais j'espère pas non plus.
Et ben pourtant, c'est vrai. Il était même membre d'un club de Cambridge nommé Glouton Club, dédié à la dégustation d'animaux inconnus. Lors de son voyage sur le Beagle, il aurait mangé de nombreux animaux qu'il étudiait. Son goût pour la découverte culinaire était documentée. Et voilà, c'est sur ça que je termine ce jeu. J'espère que vous avez appris des choses.
Ben merci Lilou.
Merci.
Alors, après toutes ces belles anecdotes, Anaïs nous a maintenant préparé une chronique sur l'histoire des expéditions dans le Grand Nord. On écoute ça ensemble.
Les passages avec des navires sont toujours restés vaines. En effet, le pôle Nord est situé au milieu d'un océan solide en perpétuel changement suivant que les glaces se brisent, se forment ou se fondent, sous l'influence de brusques variations de température, de courants marins et de vents capricieux.
Écoutez, c'est le souffle de l'Arctique tel qu'on le fantasmait il y a 100 ans. Un désert blanc, un silence de mort rompu par les bruits de pas et les bois de traîneaux. Bienvenue au pays de la Grande Ourse, Arctos en grec, là où commence l'une des plus folles sagas des expéditions humaines. En 1909, l'Américain Robert Perry clame au monde entier qu'il a planté son drapeau au pôle Nord, mais le doute plane. À ses côtés, un autre Américain, Frederick Cook, prétend la même chose. En réalité, on sait aujourd'hui que Cook s'est trompé de plusieurs dizaines de kilomètres. Et pour Perry, l'exploit n'a jamais été certifié. Il faudra attendre 1968 pour qu'une expédition atteigne enfin le point zéro par voie terrestre. À cette époque héroïque, on part avec 100 hommes, des peaux de bêtes et des chiens, pas de GPS, pas de satellite. On cherche la gloire nationale, être le premier à atteindre le point le plus au nord. Tout ça dans un labyrinthe de glace mobile. C'est aussi l'époque où reviennent les premières images des peuples qu'on appelle alors « Esquimaux ». Un mot, aujourd'hui jeté à la poubelle, depuis la conférence de 1977 en Alaska. On dit désormais Inuit, peuple natif du nord du Canada, de l'Alaska, du Groenland et de la Russie, gardien millénaire de ces terres que l'Occident veut soudainement conquérir.
Sous la calotte polaire. Mais les sous-marins ordinaires ne pouvaient demeurer assez longtemps en submersion pour accomplir la traversée et il était trop hasardeux d'espérer découvrir des eaux libres pour y faire surface.
Changement de décor. On est en 1958. Le rêve de Jules Verne devient nucléaire. Écoutez ce triomphalisme, c'est le lancement du Nautilus, le premier sous-marin à propulsion atomique, qui réussit l'impossible, passer sous la glace.
Le premier sous-marin atomique qui était lancé aux États-Unis. La femme du président Eisenhower baptisait le nouveau navire Nautilus, en hommage à l'anticipation extraordinaire de Jules Verne.
Nous sommes en pleine guerre froide. L'Arctique devient un échiquier militaire. C'est à cette époque que les États-Unis installent la base géante de Thule au Groenland. Le Grand Blanc n'est plus un mythe poétique, ça devient une zone stratégique. Les pétroliers pourront bientôt franchir les glaces et y puiser les ressources.
Au camp 3 bis, c'est Neuvière et son inséparable Théodolite qui procèdent à des déterminations astronomiques. Autour du camp, à perte de vue, la glace est percée comme une écume noire et sillonnée de ruisseaux d'eau de fonte qui s'engouffrent dans des trous profonds. Partout des trous que les savants ont baptisés trous à cryoconite, pleins d'une eau à 0 degré et qui transforment en problème une simple marche à pied.
Aujourd'hui, le bruit de l'Arctique a changé. Ce n'est plus les patins des traîneaux, c'est les fracas des glaces qui s'effondrent. Le pôle est devenu le thermomètre de la planète. On ne part plus pour planter un drapeau, mais pour sauver des données. Mais l'ironie est cruelle. Plus la glace fond à cause de nos consommations d'énergie, plus les grandes puissances lorgnent sur ce qui se cache en dessous de celle-ci. Et pour cause, ces territoires représentent 13% du pétrole mondial et 30% du gaz naturel encore non découvert. Le grand jeu continue, mais cette fois-ci, c'est une course contre la montre. Alors malgré l'impérialisme économique et la menace climatique, pourquoi l'Arctique nous fascine toujours autant? Peut-être est-ce par ses paysages, l'immensité bleue et blanche reste le dernier miroir de notre humanité. Le bout du monde a encore le pouvoir de nous faire voyager.
On bended knee is no way to be free. Lifting up an empty cup I ask silently. All my destinations will accept the one that's me. So I can. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Don't come closer or I'll have to go. Holding me like like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you.
C'était un extrait de la musique Guaranteed d'Eddie Vedder que l'on vient d'écouter. Musique emblématique du film Into the Wild, l'histoire d'un jeune homme qui fuit la civilisation vers l'Alaska à travers la Stampede Road.
On commence à être sacrément bien préparé. Maintenant, il serait peut-être nécessaire d'écouter Maëlle Villani, une amie de longue date. Elle va nous en dire plus sur les échantillons que vous ramènerez de ce périple.
Dans le cadre de nos recherches sur le permafrost en Arctique, on a voulu se rendre sur le terrain du coup en plein hiver, donc c'est un peu des conditions inédites. Suite à ces deux expéditions, j'ai voulu recréer une expo, donc on avait déjà réalisé une expo il y a 2 ans, et l'idée c'était vraiment de recréer du coup les différentes missions qu'on a réalisées en plein hiver pour pouvoir sensibiliser et conscientiser le grand public à la problématique du réchauffement en Arctique. Il faut penser que le froid est très différent à la Belgique, par exemple, dans le sens où je trouve que le froid est bien plus sec. Donc on va sentir qu'il fait froid, mais j'ai l'impression que ce serait plus supportable un moins 35 là-bas qu'un moins 35 si on avait un jour un moins 35 en Belgique, en tout cas. Moi, pour ma part, j'avais 7 couches de vêtements pour le haut du corps. Donc quelque chose qui peut paraître un peu bête, c'est que du coup, enfiler des couches le matin, ça prend beaucoup de temps. Donc le matin, je sais pas si on prend 5 minutes pour s'habiller normalement, là on en prend 3 fois plus. Le soir, avant d'aller dormir, on va aller aux toilettes, il faut remettre toutes nos couches pour aller à la toilette et puis revenir. C'est pas les conditions idéales. Déjà, comme je disais, il n'y avait pas d'eau courante, donc comme je disais, on se lavait à la bassine une fois tous les 2 jours. Un truc très ennuyant pour les personnes avec les cheveux longs, c'est que moi et ma promotrice de thèse, on ne s'est pas lavé les cheveux pendant 2 semaines, donc ça fonctionne avec tous les soirs atelier tresse ensemble, donc c'est un peu entre guillemets la partie crado de la mission. La sensibilisation, c'est quelque chose de super important, notamment aussi dans les écoles. Souvent, quand on parle de changement climatique, réchauffement, etc., c'est des choses qu'ils ont du mal à associer à des exemples concrets. On revient avec plein d'images, plein d'histoires au final. L'avantage, c'est que l'Arctique, c'est un beau sujet dans le sens où les photos sont belles, c'est des beaux paysages, ça donne envie de voyager, etc. Il y a plein de problématiques là-bas et c'est important du coup, nous, à notre échelle en Belgique aussi, de faire quelque chose, parce que c'est pas parce qu'on voit quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde que ça n'a pas de conséquences sur nous finalement.
Et on remercie Maëlle pour son témoignage et d'avoir partagé son expérience avec nous.
Vous pensiez que j'avais disparu ? Pas encore. Les amis, vous n'êtes pas tout à fait prêts, mais patience, ça arrive très vite.
Et oui, pour nos amateurs d'expédition ou simplement pour celles et ceux qui ont été intrigués par notre émission, voici la prochaine aventure d'Imaka. Elle porte le nom de Scylla, un mot venu du Groenland qui fait référence au vent. Pour cette mission qui aura lieu courant avril, c'est une équipe internationale composée de Japonais, d'Anglais et de Danois qui s'élance à l'aventure. L'objectif est de mieux comprendre et cartographier le Groenland. L'équipe se lance le défi de faire la traversée du sud du territoire en kiteski. C'est donc plus de 2000 km qui vont être parcourus uniquement grâce à la force du vent. On se quitte donc sur le morceau Arnak de la chanteuse Elisa Pi, une artiste inuite venue tout droit du Canada. Et au revoir à tous!
Au revoir.
Au revoir, merci au revoir. Beaucoup de nous avoir écoutés.
Eh bien, je pense que vous êtes enfin prêts. Vous avez le nécessaire pour ce grand voyage. Alors il est temps pour moi de vous quitter. On se reverra. À très bientôt, j'espère.